Marie-Jeanne, Gabriel, chante la mer et le ciel, battu par tous les vents, au vent de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes, une histoire gravée dans la mer, des femmes qui attendent, les marins de saint. Changer sur le court chemin d'une érote à Saint-Corentin. On ne reste plus très longtemps isolé du continent, même les anciens ne reviennent qu'au printemps, et la mer a tourné le dos aux pêcheurs des temps nouveaux. Elle entraînera les marins
les excellents Trianes. Et d'ailleurs, Jean-Michel nous a quittés il n'y a pas si longtemps, un des membres de Trianes. Voilà, c'était triste parce que c'est un groupe que je suivais depuis les années 70 et vraiment, j'étais une grande fan. Alors, l'émission touche à sa fin. Vous êtes sur Radio Liberté 89.4. C'était l'émission Faites-nous des chansons, encore pour quelques minutes. Et je vous propose de terminer avec C'est le swing de Fonfrède et Becker, de leur disque Jazzy Mix en 2009. On va peut-être céder la place à Radio Cartable, l'émission des enfants des écoles d'Ivry.
C'est le swing, swing, la plante de mes pieds. C'est le swing, 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 qui en un tour de main me fait swing, 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 me fait swinger les mains. C'est le swing, swing, qui rôde aux alentours. C'est le swing, swing, venu faire un petit tour. C'est le swing, 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 qui aimable copain. Non, 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 reste pas dans ton coin.
J'assiste, criblé d'une timidité venant perturber mon envie de bouger. J'aimerais crier, mais je n'ose pas. J'aimerais danser, mais je ne sais pas.
C'est le swing, swing, qui vient me chatouiller. C'est le swing, swing, la plante de mes pieds. C'est le swing, 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 qui en la tourne-main. Mais le swing, 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 me fait swinger les mains. C'est le swing, swing, qui veut m'embarquer. C'est le swing, swing, pour me faire craquer. C'est le swing, 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 et me donner la chance. La doudidouda, d'apprivoiser la danse. Des petites fourmis s'emparent de mes jambes. Mon esprit dit oui, j'ai le corps qui flambe. Je vais exploser, wap-di-wap-di-wé. Là c'est décidé, j'apprends à swinguer. C'est le swing, swing, swing. Swing, 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 c'est le swing, 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 c'est le swing, 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 c'est le swing, c'est le swing, c'est le swing, 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 c'est le swing. Swing, 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 j'attends.
refrain. Dis swing, 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 pour swinguer des refrains.
Adème, je suis en CE1C chez Rémi Petitot.
Bonjour, je m'appelle Loan, j'ai 7 ans.
Bonjour, je suis Idriss.
Bonjour, je m'appelle Arif et je suis à l'école Maurice Torres B.
Bonjour, je m'appelle Djariétou et je suis contente d'être là.
Bonjour, je m'appelle Elina, je suis contente de vous parler.
Bonjour, je m'appelle Dora et je suis contente de vous parler.
Bonjour, je m'appelle Sofiane et je suis contente de vous rencontrer.
Bonjour, je m'appelle Janie.
Bonjour, je m'appelle Abdelhadi.
En novembre, je suis allée au Crédac et j'ai vu une dame qui s'appelle Daphné et il y avait un homme qui voulait pas la lâcher et du coup Daphné elle s'est transformée en arbre.
Au Crédac, j'avais vu des rideaux et des perruques.
On va vous expliquer
avec des télévisions.
Moi au Crédac, j'ai vu des tableaux dessus. C'était dessiné très bien. Il y avait une dame avec avec un cheval.
Et au Crédac, il y avait une œuvre qui... Il y avait des gens qui étaient tout nus et qui dansaient. J'ai trouvé ça très beau. Et c'était un peu rigolo.
Exposition La Fugitive. Commissariat Anna Mendoza Aldana.
Regardez, là, qu'est-ce qu'on voit là ?
Une statue.
Deux statues. Deux statues, tout à fait. Donc, Apollon, c'est qui ? Apollon, c'est où ? Il est où, Apollon ?
Il est là.
Il est là, Apollon. Apollon, il est là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et Daphné, elle est où ?
Elle est là, devant.
Qu'est-ce qu'il se passe ?
Apollon va l'attraper quand Apollon va l'attraper, elle se transforme par un arbre.
Comment on comprend qu'elle se transforme, qu'elle est en train de se transformer en arbre, voilà.
Parce que son visage est rempli de...
Oui, là oui, mais ici.
Parce qu'elle est toute grise. Non.
Qu'est-ce qu'on voit ?
Parce qu'il y a des fleurs qui commencent à pousser sur elle.
On va vous expliquer le travail qu'on a essayé de faire. On a essayé de coller les œuvres qu'on préfère.
Le maître nous a donné des photocopies, des images qu'on a vues au Crédac et au Macval.
Aussi,
on les colle, les préférés en premier, et après on fait un titre.
Ce n'est pas le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, en vérité, c'est Daphné et Apollon. Mais nous, on a choisi, par exemple, des noms comme la Dame Rose. Et après, chacun a choisi son nom pour Daphné et Apollon et pour d'autres œuvres.
L'exercice était comme si je fabriquais une exposition. L'exposition, c'est quelqu'un qui nous fait visiter les œuvres de quelqu'un.
L'exposition donne corps au personnage d'Albertine dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
La dame aux roses. Daphné s'est transformée en arbre.
Cet arbre s'appelle le laurier. J'adore cette œuvre parce que Daphné est trop belle.
J'aime ce tableau car elle est en fleurs et moi j'aime les fleurs, les roses et les pétales.
Est-ce que vous avez des rideaux dans votre chambre?
Oui.
Et à quoi ils servent les rideaux?
Pour garder notre intimité.
Garder notre intimité. Qu'est-ce que ça veut dire, intimité? Qu'est-ce que c'est l'intimité?
Ça veut dire que pour les gens, ne voient pas les trucs privés, les choses privées.
Albertine a un caractère affirmé, mais reste mystérieuse aux yeux de Marcel, le narrateur.
La première œuvre que j'ai choisie, c'est la Dame aux roses, puis la deuxième, la Dame au cheval, la troisième, après, c'est l'homme qui marche dans les nuages, et après, le tapis aux cheveux. Puis, la dernière œuvre que j'ai choisie, c'est le lit.
Et moi, j'ai préféré l'étiquette avec Daphné et Apollon et le lit en os. Pour le titre d'un lit, c'était le lit en os. Parce que sur la couverture, on dirait que c'était des os. Donc j'ai choisi le lit en os.
En premier, j'ai mis d'Aphelon. En deuxième, j'ai mis les restes de Pollux. En troisième, j'ai mis les rideaux de couleur. En quatrième, j'ai aimé le lit. En cinquième, j'ai aimé le tableau de danse.
Parfois, on peut aimer ça. Parfois, on a besoin d'être quelqu'un d'autre, non? Parfois, on a envie.
Quand quelqu'un nous embête.
Quand quelqu'un nous embête, par exemple, on pourrait changer, on pourrait se transformer. Mais parfois, tout simplement, un jour, moi, j'ai envie d'être comme ça, avec les cheveux courts, marrons. Mais j'ai aussi envie, le soir, de mettre une longue perruque blonde et changer de personne.
Mais c'est impossible de changer de personne.
Pourquoi c'est impossible?
On peut changer de couleur de cheveux, mais pas de visage quand même.
Oh si, on peut changer de visage, on peut se maquiller, on peut se dessiner de moustaches.
Des moustaches, mais on va quand même savoir que exactement t'es une fille.
Albertine s'échappe, se dérobe au regard de Marcel.
J'ai collé un ordre, une photo ici, collé à une photo. Après, en bas, à côté de ma phrase en bas, j'ai collé une autre. Après, j'ai pris une autre page, j'ai encore collé une autre et en bas, j'ai collé.
C'est dans l'ordre que je préfère.
Je n'ai pas fait comme Dora, un petit peu aligné. J'ai fait un petit peu comme ça.
En zigzag, j'ai mis Daphné en premier et j'ai mis le rideau en dessous. Et, la photo à côté de Daphné et j'ai mis la fille dans le cheval en dessous des perruques.
L'exposition propose une manière plus complexe de voir les choses. Les rideaux, Anne Bourse, Rage. Les télévisions, Chantal Ackerman, La Chambre. Apollon et Daphné, Autumn Ramsay. Le lit, Marc-Camille Chalmovitch. La danse, Jean de Sagazan. Les perruques, Pauline Boudry et Renate Lawrence. Merci à Lucia Zapparoli qui a guidé les enfants dans l'exposition.
Au revoir.
Au revoir.
sommes la classe des CE2
de l'école Maurice Thorez B. Le mardi 7 décembre,
nous avons visité une exposition au McVan.
L'exposition présentait les œuvres
de l'artiste Taïzir Beit Nigé.
Arnaud Beigel, qui a guidé les élèves dans l'exposition, leur a proposé de commencer par un dessin. Si vous voulez essayer, posez une petite feuille sur votre cahier de brouillon. Prenez un crayon de couleur et suivez les instructions.
C'est bon ? Tout le monde a une couleur ? Tout le monde a un crayon ? Alors, en fait, je vais faire toujours le même geste. Je vais aller de gauche à droite en faisant un trait. Et ce que je veux, c'est que ma feuille, elle prenne toute la couleur du crayon. Donc je fais des traits comme ça pour vraiment recouvrir absolument tout le blanc avec la couleur. Vous y arrivez ?
Ça va être long.
Ça va être long, mais non, ça va pas être long. Je vais derrière.
Pour une fois qu'on peut dépasser.
Oui, tout à fait, pour une fois qu'on peut dépasser. Hein. Est-ce qu'on comprend quand on voit ça qu'il y avait eu un papier ici et que le papier a été enlevé ? Et là aussi, là, on voit bien la petite feuille qui a été enlevée ? Alors comment on pourrait appeler ces traits-là ? C'est une forme, c'est vrai, en même temps, c'était pas vraiment la forme qu'on voulait faire, c'est un peu ce qui est resté après la forme. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une trace ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une trace en général ?
Oui.
Eh bien oui, complètement. Donc c'est une trace.
Taïzir Beit Nigé est né en 1966 à Gaza. Il y est resté
jusque dans les années 1990.
Il a
étudié dans une école d'art
en Cisjordanie.
Quand il a pu voyager,
il est allé en Italie.
Avant de s'installer à Paris.
Il n'a pas pu retourner dans son pays.
Son travail parle de la vie de son pays d'origine.
Mais aussi
de la disparition,
de l'exil et du fait que rien ne dure éternellement.
Nous avons commencé la visite
par l'œuvre Pas perdu.
Taïsir Bait Niji.
Des calques à même le sol.
Des empreintes de pas par frottement.
Ainsi, il récupère les traces.
Des semelles de chaussures
incrustées dans le bitume.
La deuxième œuvre
était frontière.
Elle était toute jaune. Ça faisait penser à du sable et au soleil.
L'œuvre sans titre
est faite de 177 portraits de personnes mortes dans son pays entre 2001 et 2014.
Est-ce que vous avez remarqué que si vous vous balancez, il se passe quelque chose au niveau des visages? Vous arrivez à vous balancer d'un pied sur l'autre comme ça? Je ne vois pas tout le monde le faire. Est-ce que choisissez un visage et quand vous vous balancez, dites-moi si vous voyez quelque chose qui change.
Oui, de ce côté, on voit plus clair. Et si on va par là, on va plus foncer.
Tout à fait. Il a réussi à avoir une technique où finalement, on voit le visage et puis à un autre moment, en fait, avec le jeu de reflets, le visage va disparaître.
Une autre œuvre montrait des savons empilés,
gravés de l'expression.
Rien ne dure éternellement.
Je vois des gens.
Oui.
Je vois des gens en train de faire des photos et un mariage.
Ah, tu vois un mariage? Alors, c'était très fort parce qu'effectivement, il est parti de photos d'un mariage. Et c'est pas n'importe quel mariage, c'est le mariage de son frère. D'accord? Mais comment il est passé de la photographie à ce dessin-là, je vais vous l'expliquer parce qu'on peut pas deviner.
Sur la photocopie d'une photographie, il a creusé les contours des formes humaines.
Des traces sur le papier apparaissent quand on est tout près.
De loin, elles disparaissent et on voit que du blanc.
Alors, c'est un mariage, et on avait dit c'est le mariage de son frère, donc c'est la propre famille de Taïsir. Hein. Mais Marakari, il nous dit, en fait, ça parle de gens qui sont morts. Et c'est vrai, en fait, le frère de Taïsir, il est mort. Donc finalement, à travers ces dessins-là, c'est une manière, en fait, de vouloir garder le souvenir de son frère. Hein. Quand on était de loin, on ne voyait pas les personnes. Ils sont morts, on ne les voit plus. On s'approche, on a l'impression qu'on va les voir. On se reconnecte un petit peu avec eux. On retrouve un petit peu le souvenir. On s'éloigne. Hop, c'est parti, ils ne sont plus là. Hein, voilà. Alors, c'est une idée intéressante parce que justement, il essaye de travailler sur le souvenir. Mais c'est vrai que le souvenir, c'est quelque chose d'un petit peu fragile. Hein. Et d'ailleurs, une des choses qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour se souvenir, justement, c'est la photographie. Hein, ça nous aide à nous souvenir.
Je me souviens que j'avais 3 ans et que j'étais en petite section. Je me souviens que je l'ai trouvé dans mon placard.
Je me souviens que c'était mon anniversaire et que j'avais 6 ans et que c'était un gâteau au chocolat et que c'était le meilleur jour de ma vie.
Je me souviens que j'avais 3 ans et que c'est ma mère qui a pris la photo et que c'est ma mère qui me l'a donnée.
Je me souviens que j'avais 14 mois. Ma grande sœur m'avait donné cette photo de moi quand j'étais petite. J'étais calme, douce et fragile. Je suis la troisième de ma famille. Quand j'avais 14 mois, je n'ouvrais pas beaucoup les yeux. Je les fermais avant 5 minutes. Ce jour-là,
on était allé au parc pour que je prenne l'air. Et on est rentré pour faire ma sieste.
C'était la photo de classe, même j'étais en CE1 chez maîtresse Marion.
Si vous voulez évoquer un moment disparu par la gravure à la manière de Taïsir Bait Nidji, suivez nos conseils. Première étape, choisissez une photo qui rappelle des moments disparus. Deuxième étape, vous pouvez la photocopier sur du papier très fin, comme Taïsir, ou alors décalquer la photo sur du papier calque. La taille idéale est la taille d'un grand cahier. Troisième étape, posez votre photocopie ou votre calque sur une feuille de papier à dessin assez épaisse. Avec un crayon de papier, repassez les contours des personnages. Lorsque vous regarderez la feuille à dessin, de loin, vous ne verrez rien. Mais en vous approchant, vous pourrez voir les traces d'un moment disparu.
La visite nous a plu. À bientôt pour une autre exposition.
Studio de Radio Cartable.
Avant de passer à la musique séchique, nous allons écouter les Indes galantes de Rameau dans la version jouée par l'Opéra de Paris dans une chorégraphie de Bintou Dembélé.
Nous sommes les CE1C de l'école Maurice Thorez B. Nous sommes allés voir l'exposition de Mathieu Kleib à Bonnens, au Crédac.
Une aventure étrange nous attendait lorsque Lucie nous a fait rentrer dans la première salle.
Sonore résonnait dans ce lieu si calme d'habitude.
Par terre, nous avons vu 3 récipients.
Mais ce n'est pas un récipient, c'est ma carapace. Je suis une tortue géante.
Ta carapace, mais elle est toute vide et retournée à l'envers. Que t'est-il arrivé?
J'ai été tuée par des braconniers et ma carapace a été installée dans un musée.
Et quelle est cette chose solide, liquide, qui fait comme une flaque au fond de ta carapace?
Dans ma carapace, il y a du métal qui ressemble à du mercure.
Mathieu, l'artiste, a mis du métal dans ma carapace. J'ai bien aimé ça parce que c'était de très belles couleurs avec du gris un peu brillant argenté.
C'est vrai que c'est beau. Pourtant, le mercure, c'est dangereux. Si tu respires ce métal, si tu le touches, c'est très toxique.
Ce métal est tellement toxique qu'il peut tuer tous les animaux de la rivière.
Sur Terre aussi, ça peut tuer les escargots et les ours et les humains peuvent tomber malades. Et voilà, maintenant je suis dans ce musée pour être dans une exposition.
Je suis devenue une œuvre d'art.
La carapace est solide, mais l'animal est fragile. On aurait bien voulu remettre les carapaces à l'endroit et voir les tortues s'éloigner avec leurs grosses pattes.
Plus loin, sur le mur, on a vu une carte au trésor. Mais où étions-nous donc ?
Une voix sortit de l'endroit du mur où était affichée la carte.
Prenez-moi, lisez-moi, suivez le chemin.
Bonne chance pour trouver l'or.
Merci. Alors, si toi, tu as servi à trouver le l'or, tu dois pouvoir nous expliquer à quoi servent ces vieux objets tout rouillés là-bas.
Bonjour, je suis la bouilloire et je suis ravie de vous voir.
Je suis la balance, je servais à peser les pépites trouvées par les chercheurs d'or.
Ça nous a paru incroyable, cette histoire de chercheurs d'or.
Mais quand on sait que pour trouver de l'or, il faut polluer l'eau de la rivière avec du mercure, on se demande si ça vaut vraiment le coup.
Comment vivre avec plein d'or si l'eau que tu bois te rend malade?
Nous a emmenés et on s'est approché des bruits. Des grincements et sortit une voix parlant anglais.
There are Amerindian legends which tell of sleeping, yet on occasion singing rocks that witness to the traffic of history, the traffic of expeditions in search of El Dorado that Sir Walter Raleigh would have contemplated when he voyaged up the Orinoco before he lost his head in the Tower of London. The rocks sing an unwritten opera of El Doradan adventurers. Amerindians such as the Mukusi, the Wapishana, the Arawaks, whom Raleigh would have encountered, are still to be found in Guyana and South America. They have suffered, since Columbus's and Raleigh's day, decimations and the continuous depletion of their numbers at the hand of Europe across the centuries. They were close to extinction at the beginning of this century, but have survived in small numbers against all of the odds. I came upon them frequently.
Oui, c'est moi qui ai écrit le texte en anglais. Je m'appelle Wilson Harry et je suis un écrivain guyanais. J'ai beaucoup travaillé dans la forêt et sur les fleuves de Guyane. Cela m'a aidé à comprendre que beaucoup de ce qui existe n'est pas visible. Dans ce monde, la jungle m'a inspiré des poèmes et des romans. Vous, par exemple, vous auriez quelle impression si vous étiez au milieu de la jungle pendant la nuit?
On dormirait, on se nourrirait de petits fruits
et on pourrait monter par
perroquet, promener en bateau et je trouverais un paresseux pour dormir à l'envers.
On serait tranquille, on n'aurait pas besoin de faire le ménage. On ferait une maison
dans la jungle.
On peut nous manger, des animaux peuvent nous attaquer.
Des animaux carnivores.
Des petites bêtes comme des mites
ou plutôt des scorpions,
des serpents. J'aurai une grosse blessure, même le bruit des
oiseaux. Je nourrirai un louveteau pour qu'il m'aime bien.
On aimerait bien les entendre quand même.
Il me défendra.
Mathieu l'artiste nous a expliqué. J'ai essayé, comme vous, de traduire mes émotions en filmant la jungle la nuit depuis une rivière. Ma sœur m'a guidée car elle habitait juste à côté. Le film porte son nom, Lorraine Loharan.
Je m'appelle Naël, nous sommes dans l'école Maurice Thorez B.
Bonjour, je m'appelle Selim et je suis dans la classe de CDB.
Bonjour, je m'appelle Maya et j'ai 8 ans.
Bonjour, je m'appelle Chénèse et j'ai 8 ans.
Bonjour, je m'appelle Ismaël et je suis dans la classe de Maître Rémi.
Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, on va vous parler de l'exposition de Derek German.
Est un artiste, peintre, sculpteur, acteur, cinéaste anglais et né en 1941.
Il a eu une maladie grave, il est mort à l'âge de 52 ans.
Il fait des petits films expérimentaux, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose d'original, comme une expérience avec l'image et l'histoire.
Dans ses tableaux, il met toute son énergie pour exprimer sa colère, en modelant avec de grands gestes. La peinture.
Il grave avec ses doigts les mots qui expriment sa révolte.
Qu'est-ce que vous ressentez dans cette salle?
Oui. J'ai remarqué que dans les peintures, il y a des bosses.
Et c'est quoi les bosses? Elles sont.
C'est la peinture. C'est la peinture qui sèche.
C'est la peinture. Séché, exactement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez ajouter?
Là, on voit des journaux.
On voit des journaux, là, on les voit très très bien.
Celui-là aussi.
Mais là aussi. Là aussi. En fait, il y a des journaux partout, derrière la peinture, sous la peinture. D'après vous, pourquoi Derek il a fait ça? Pardon. Ah, parce qu'il voulait cacher les méchancetés des journaux avec la peinture, c'est ça? Eh bien, c'est exactement ça. Ouais. Et les enfants, il faut avoir une chose en tête. Je vous ai dit qu'à l'époque de Derek, c'était pas du tout facile de parler de la maladie. Si on était malade, c'était pas du tout facile. Il fallait être très, très courageux pour dire devant tout le monde « Je suis malade de sida ». Parce que si on le faisait, après, on prenait les risques d'être maltraité par les gens. Et Derek, il a été très très courageux. Parce qu'il n'a pas eu peur de dire devant tout le monde, à la télévision même, qu'il était malade. Il a dit avec ses œuvres d'art, avec ses tableaux. Du coup, c'était vraiment un acte très très fort.
J'ai fait une affiche en lien avec le climat et mes sentiments. J'ai écrit les mots avec du rouge et du noir. Les couleurs que j'ai utilisées transmettent mes émotions. J'ai écrit le mot déception, qui représente totalement mon ressenti sur le climat.
D'abord, j'ai pris de la peinture rouge, je l'ai étalée. Avec mon ongle, j'ai écrit « rage » pour exprimer ma colère. Ma colère contre la pollution. J'ai aussi écrit « indigné ». Avec le manche du pinceau, j'ai gribouillé la peinture bleue. Et la peinture jaune du dessous est réapparue.
D'abord, j'ai collé des articles de journaux qui parlaient de la pollution de la planète. J'ai copié des mots au crayon à papier comme « émotion »,« émeute » et « lutte ». Après, j'ai peint par-dessus. J'ai utilisé du orange, rouge, violet et noir. J'ai fait de grosses lettres majuscules.
Si vous voulez faire un tableau à la manière de Derek Jorman,
prendre une feuille à trois ou plus grande.
Coller les articles de journaux dont les titres vous révoltent.
Étaler une couche fine de peinture de couleur claire.
Puis tarsiner de peinture plus foncée.
Les titres de journaux recouverts doivent rester visibles par endroits.
Avec les doigts ou le manche d'un pinceau, écrivez le mot qui exprime votre réaction. C'était chouette de vous expliquer comment faire ce tableau.
Je suis installé avec des amis dans ce bistrot à boire du café servi par de jeunes réfugiés post-nac. La terre fait rage. À la une des journaux, dans les rues en ruine de Sarajevo, Tania m'a dit: tes vêtements sont à l'envers et tu as mis le devant derrière. Comme nous n'étions que tous les deux, je les ai enlevés pour les remettre à l'endroit. Je suis toujours là avant l'ouverture des portes. Quel besoin avons-nous de tant de nouvelles de l'étranger, alors que tout ce qui concerne la vie et la mort est mis en œuvre et se joue au fond de moi.
Oui, qu'est-ce que tu as dit?
Positif.
Exactement. Positif, c'est... En anglais, ça veut dire positif. Comment en français? Positif. Qu'est-ce que ça veut dire, positif? Pourquoi Derek, il a écrit positif sur ce tableau?
Ça veut dire qu'il est contaminé.
Ça veut dire qu'il est contaminé. Ça veut dire qu'il est malade. C'est un peu comme avec les COVID. Vous savez, quand on fait les tests... Exactement. On fait les tests. Si on n'est pas malade, si on n'a pas le Covid, le test, il est
négatif.
Si on a le Covid,
affirmatif.
Positif. Le test, il est positif. Exactement. Mais c'est un peu bizarre, non? Parce que si on ne pense pas à la maladie, si on ne pense pas au Covid, si on ne pense pas au sida, le mot positif.
Rester content et ne pas dire des choses
Le mot positif. Exactement. Le mot positif, c'est le contraire du négatif. Donc, c'est quelque chose qui fait penser à la joie, à la... On est content, on est positif, on est bien, non? Du coup, c'est un peu bizarre de dire pour quelqu'un qui est malade, qui du coup ne va pas très bien, d'utiliser les mots positifs. C'est comme si on renversait, si on mettait à l'envers le sens du mot positif. Et c'est pour ça que Derek, il a écrit à l'envers le mot positif. C'est une inversion, un renversement du sens du mot. Et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un acte de courage de afficher, de faire un slogan comme ça en disant « je suis positif. Je suis malade. Je n'ai pas honte de l'être. C'est pas de ma faute. » Et voilà.
On va vous raconter quelques sculptures de Derek Jarman. Elles ont été faites avec des déchets et des affaires oubliées trouvées sur le bord de la mer.
C'est une sculpture. Il y a une branche cassée qui tient un fil. Ce fil tient une pierre. Au-dessus de cette branche,
il y a un clou. Sur ce clou gris, il y a 3 pierres blanches.
Il y avait une autre sculpture avec un morceau de bois. Sur le morceau de bois, une feuille était collée. Sur cette feuille, il y avait des phrases écrites en noir. Tout était recouvert de vert.
Il y avait une sculpture avec sur la tête un gros galet troué en pierre grise. Dans le trou de ce galet, il y avait des petites pierres marron clair.
Vous observez bien. Chez Derek, dans l'œuvre de Derek, il y a toujours deux côtés. Un côté plus sombre et un côté toujours très joyeux, très clair. Si on réfléchit bien à ce que Derek l'a fait, Derek il a pris par terre, il a pris des objets cassés, des objets oubliés, des objets qu'on peut dire qu'ils étaient malades, non ? Un peu comme lui. Il les a ramenés à la maison, il les a soignés, il les a transformés en objets précieux, il les a transformés en œuvres d'art. Il a donné une nouvelle vie à tous ces objets.
Comme s'il pouvait dire que tout pouvait être beau. Aussi jardinier.
Il est le créateur de son propre jardin paradis, dans une immense étendue de galets le long de la mer.
Il était passionné de plantes et fabriquait un paysage d'une rare magie.
Pour lui, c'est une façon de parler d'écologie. Au revoir.
Interview de Juliette Green par la classe de CE2 de l'école Maurice Thorez B. Juliette Green a réalisé sa première exposition personnelle au Crédac intitulée « Le goût des mots ».
Bonjour, nous allons vous poser des questions. Pourquoi faites-vous de l'art ? Dessinez-vous parce que vos proches le faisaient ?
Alors moi je fais de l'art parce que j'aime bien écrire et dessiner. Et quand j'étais petite, j'avais des proches autour de moi qui aimaient bien écrire, dessiner aussi, faire de la peinture. Mais personne avait ça comme métier, donc je pensais pas que artiste c'était une vraie profession. Et après je suis rentrée dans une école d'art et on m'a dit que si, c'était un vrai métier. Donc voilà pourquoi maintenant c'est le mien.
Vous faites des œuvres sous forme de diagrammes, avec des textes et des dessins. On a appris que vous avez découvert cette technique à l'école.
Dans vos dessins, si vous mélangez depuis toujours les mots et les dessins, est-ce que c'est pour partager votre imagination ?
Alors oui, effectivement, c'est pour imaginer des histoires et pour les partager avec d'autres personnes. Et comme vous disiez, le tout début de mon travail, c'était à l'école que j'avais fait. Parce que quand j'avais 15 ans, j'avais lu un livre qui conseillait de prendre des notes en mêlant des dessins et des formes géométriques. Donc j'ai commencé quand j'étais dans les cours et que les profs parlaient pour nous expliquer des choses, à faire des petits dessins, à mettre des flèches, des carrés, des rectangles, des choses comme ça, pour avoir quelque chose qui était à mi-chemin entre l'écriture et le dessin.
Pourquoi continuez-vous à faire des diagrammes adultes ?
Parce que dans la vie, c'est important de s'amuser. Et aussi parce que maintenant, comme je fais des expositions, j'ai la chance de pouvoir travailler sur d'autres supports que le papier. Donc sur des toiles, sur des panneaux de bois, sur les vitres aussi, comme vous avez fait quand vous êtes allé au Crédac. Et ça, c'est un grand plaisir de pouvoir dessiner sur des surfaces qui sont interdites quand on est plus jeune.
Dans votre exposition, il y a cette question. Si le ciel était comestible, quel goût aurait-il ? Vous partez de la couleur du ciel pour l'associer à un goût, mais on peut trouver votre question absurde. Car si on mange le ciel, il va disparaître.
Aimez-vous les questions absurdes ?
Alors oui, j'aime beaucoup les questions absurdes parce que une des choses que j'aime le plus dans les expositions, c'est quand ça fait rire les gens. Et cette question sur le ciel, elle vient d'un livre que j'avais lu quand j'étais petite, Charlie et la chocolaterie, où à un moment, les personnages arrivent dans une grande pièce où tout est comestible. Donc ils commencent à manger des objets, des choses comme ça. Et du coup, c'est de là qu'est partie cette œuvre-là.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce diagramme ?
Alors, la chose qui m'a inspiré pour ce diagramme, c'est que quand j'ai visité le Crédac, on m'a dit qu'il y avait une personne de l'équipe, Lucia, qui est là, qui avait une passion, qui était de prendre en photo des couchers de soleil qu'on voyait à travers les grandes baies vitrées du Crédac, sur les expositions. Et je me suis dit que le ciel était important dans ce bâtiment où il est très visible avec les vitres, et que ce serait intéressant de faire une œuvre en rapport avec ça.
Vous avez fait un diagramme sur la nourriture qui répond à cette question. Que se passerait-il si on n'avait plus besoin de manger ? Vous avez répondu par des avantages et des inconvénients.
Dans ce diagramme sur la nourriture, vous avez tout écrit en une seule couleur, le rouge. Pourquoi avez-vous utilisé une seule couleur ? Est-ce que c'est parce que c'est votre couleur préférée ? Parce que ça fait joli ? Ou alors la couleur est-elle liée à la question posée ?
Alors effectivement, j'aime beaucoup la couleur rouge, mais la raison pour laquelle il y a autant de rouge dans cette exposition, c'est que il y a beaucoup d'œuvres qui sont sur les supermarchés, et les logos des supermarchés sont très souvent rouges. Si vous pensez aux logos de Carrefour, Intermarché, des choses comme ça, il y a toujours du rouge dedans. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est une exposition sur la nourriture, autant faire ce petit rappel au supermarché.
Comment avez-vous choisi votre question sur la nourriture, à quoi voulez-vous faire réfléchir ?
Nous, on a pensé que si on ne mange plus, on meurt. Voulez-vous que nous réfléchissions à ce qui est important dans la vie ?
Alors le but, effectivement, c'est pas de faire des scénarios catastrophes où tout le monde mourrait, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer des histoires qui sont évidemment pas réelles, pour pouvoir réfléchir ensemble à la réalité et pourquoi on fait ce qu'on fait.
Est-ce que vous posez toutes ces questions pour réfléchir vous-même ou pour faire réfléchir ? Après votre exposition, on s'est posé beaucoup de questions. En voici quelques-unes. Pourquoi a-t-on créé la télévision ? Pourquoi les riches ne partagent pas leur argent avec les pauvres ? Que se passerait-il si tout était gratuit ?
Alors pour répondre à la première question, effectivement, une des choses qui m'intéresse, c'est de réfléchir moi-même et de faire aussi réfléchir les autres. Et donc je suis très heureuse que ça vous inspire beaucoup de questions parce que c'est exactement le but de mon travail.
Si le ciel était comestible, quelle saveur aurait-il ?
Et moi je vous pose la question. Si le ciel était comestible...
Comestible, tu montres ce que c'est comestible ?
Oui, si on peut manger.
Super. Si on pouvait manger le ciel, il aurait quelle saveur ?
Une saveur qui fond dans la bouche et que c'est tout doux.
Doux, de goût. Une saveur douce. D'autres idées ? Si le ciel était comestible, quelle saveur aurait-il ?
La saveur d'un chamallow.
D'un chamallow ? Oui, papa. Juliette, elle imagine que c'est une petite fille qui s'appelle Lily. Elle regarde le ciel à différents moments de la journée et en fonction de la couleur du ciel, le ciel a une saveur différente. Donc, quand cette petite fille regarde le ciel, quand le ciel quand il y a des orages très forts, elle imagine qu'il aurait le goût, par exemple, du pain perdu à la cannelle. Vous savez ce que c'est le pain perdu ?
Oui.
Mais est-ce que vous savez comment répondre à vos questions ?
Je ne sais pas toujours comment répondre à toutes les questions, Parfois, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Donc, je pose des questions aux gens autour de moi. Je leur demande quel est leur avis sur le problème. Et en général, c'est quelque chose de très collectif. On y réfléchit ensemble. Et après, ça me donne des idées pour mettre sur les œuvres.
Est-ce que vous avez des coéquipiers pour travailler avec vous, pour faire des questions ?
Non, je travaille toute seule la plupart du temps. Ça m'est arrivé une seule fois de faire un projet avec une de mes amies qui était sur les fontaines. Donc on a imaginé des fontaines qui n'existent pas. Et elle les a dessinées et moi j'ai écrit des petits textes absurdes dessus.
Est-ce que vous avez fait les questions en parlant de la nourriture ?
Alors oui, je travaille pas uniquement sur la nourriture, là c'était juste pour cette exposition, mais ça m'arrive de faire des œuvres sur d'autres sujets, comme par exemple la famille, le travail, l'école aussi, donc ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie de parler.
Vous avez fait plusieurs expositions ou que celle au Crédac ?
Oui, j'ai fait plusieurs expositions, mais il y en a beaucoup dans lesquelles on est plusieurs artistes, et là c'est la première fois que je fais une exposition où il y a seulement mes œuvres.
Pourquoi posez-vous toutes ces questions ? Est-ce que vous avez peur que notre monde, il change ?
Alors le monde est tout le temps en train de changer, donc je peux rien faire contre ça, et j'ai pas envie de faire changer ça, justement. Mais si je pose toutes ces questions, je pense que c'est parce qu'on se pose tous beaucoup de questions en permanence. Et donc le mettre dans une exposition, c'est une façon de partager cet état d'esprit, de s'interroger sur tout.
Combien de temps ça te prend de faire une œuvre ?
Alors ça dépend vraiment des œuvres. Il y en a qui peuvent être faites en quelques heures, d'autres où ça prend plusieurs mois. Donc ça dépend du temps de réflexion que la question nécessite. Mais généralement, le temps de réflexion est beaucoup plus grand que le temps de création. C'est-à-dire que le temps que je passe vraiment à dessiner, il est beaucoup plus réduit que le temps que je passe à cogiter avant de passer à l'action.
Des œuvres, vous en faites combien par jour ?
Ça dépend des périodes, parce que je passe beaucoup de temps à l'atelier effectivement à faire des œuvres, mais il y a d'autres aspects dans mon travail, comme aller sur les lieux où il y a les expositions, travailler avec les équipes, faire le montage, installer les œuvres, choisir où elles vont, les envoyer aussi aux personnes qui les collectionnent, et puis rencontrer des gens, faire des rendez-vous. Donc il y a beaucoup de choses différentes dans ce métier. Et c'est pas seulement du temps qu'on passe à créer.
Quand vous êtes arrivé au Crédac, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez eu peur, être étonné ? Est-ce que vous étiez ému d'exposer des œuvres que vous aimeriez montrer dans un musée ?
Alors j'étais surtout très heureuse qu'on me fasse confiance pour faire une exposition dans ce lieu. Et comme le bâtiment est impressionnant, effectivement, avec ses très grandes baies vitrées, les briques, ça m'a plu de pouvoir avoir un environnement aussi beau pour montrer mon travail.
La première fois que vous êtes partie au Crédac, c'est le premier jour que vous avez fait les expositions.
On a travaillé pendant plusieurs mois sur l'exposition. Mais c'était pas seulement moi, il y avait toutes les personnes de l'équipe du Crédac qui m'aidaient à réfléchir, à choisir l'emplacement des œuvres, le bon matériel et les dimensions aussi. Donc c'est vraiment un travail de plusieurs personnes.
Est-ce que avant d'arriver dans un musée, vous faites vos œuvres ou vous les faites après ?
Alors là, toutes les œuvres qui sont au Crédac ont été faites spécialement pour ce lieu. Donc j'ai vraiment réfléchi en fonction de la pièce qui m'avait été attribuée. Donc il y a beaucoup d'artistes effectivement qui font les œuvres avant et qui ensuite choisissent l'exposition dans laquelle chaque œuvre va aller. Mais moi j'aime bien créer spécialement pour un lieu en particulier et l'avoir en tête quand je travaille.
Est-ce que vous avez déjà visité le musée avant de poser l'exposition ?
Oui, la première fois que je suis venue au Crédac, il y avait une exposition de Simon Boudevin que vous avez dû voir avec une voiture.
Quand vous avez commencé, vous avez quel âge ? Quand t'arrives au Crédac, t'avais quel âge ?
Alors, en ce moment, j'ai 27 ans et c'est aussi l'âge que j'avais quand j'ai commencé à travailler au Crédac. Mais l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire des dessins en noir et rouge qui racontent des histoires, c'était 15 ans. J'étais au collège à l'époque.
Est-ce que quand vous étiez au collège, vous avez déjà pensé à faire comme Simon Boudvin?
Alors, je pense que mes parents ne m'auraient pas laissé démonter leur voiture, donc c'était pas une possibilité.
Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui veulent vous recopier?
Alors, j'avais entendu une fois un artiste qui disait que la meilleure chose qu'on pouvait faire contre les gens qui veulent nous recopier, c'était d'être plus inventif qu'eux et de faire un travail meilleur, parce que ça, ils ne pouvaient pas le faire. Donc voilà la réponse.
Quand vous êtes entré à l'école des arts, vous avez eu quel âge?
Quand j'ai commencé à faire des études d'art, j'avais 21 ans. Et avant ça, j'ai fait des études de publicité. Parce que je ne voulais pas du tout être artiste à l'époque. Je ne pensais pas que c'était un vrai métier. Donc ça ne m'a pas traversé l'esprit.
Est-ce que quand vous étiez au collège, vous commencez toute seule ou vous faisiez avec des amis?
Quand j'étais au collège et que je faisais mes petits dessins en noir et rouge pour prendre des notes de cours, j'étais toute seule. J'avais pas d'amis qui faisaient ça aussi.
Est-ce que quand vous étiez en CE1, est-ce que vous pensez à quoi faire quand vous serez grande?
Donc, quand j'étais en CE1, je savais que j'aimais déjà dessiner, mais je ne pensais pas que c'était un vrai métier. Je croyais que c'était plus un rêve, et j'imaginais pas du tout qu'on pouvait vivre avec ces dessins. Donc, je ne me disais pas que plus tard, ce serait mon métier.
Quand vous étiez au collège, est-ce que vous étiez déjà puni?
Alors, j'étais pas punie par l'école, mais j'étais punie par mes parents parfois.
Est-ce que vous avez aimé participer à cette exposition?
Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que l'équipe du Crédac est très accueillante et qu'elle a vraiment beaucoup respecté mes idées.
Quand vous étiez petite, qu'est-ce qui vous a marqué pour faire beaucoup de dessins? Est-ce qu'il y avait beaucoup de vos ancêtres qui aimaient faire ce genre de choses? Ou alors, ça vous a passionné et vous aimez vraiment bien dessiner?
Quand j'étais vraiment toute petite, je pensais que l'art, c'était seulement la peinture et que tout ce qui était écriture, c'était autre chose. Ça allait pas dans les expositions. Du coup, j'aurais pas du tout imaginé à l'époque que le travail que je fais maintenant pouvait avoir sa place dans le milieu de l'art.
La radio des écoles d'Ivry.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui vous dira tout à l'heure et qui vous prépare un cocktail musical du tonnerre. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Montal, qui vient de publier un roman, Leur Chamade, aux éditions Séguier, et c'est dans la collection L'Indéfini. Jean-Pierre Montal, bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle, je pense, nous sommes le 22 juin, tant pis pour le podcast, nous sommes le 22 juin. Hier, Françoise Sagan aurait eu 88 ans. Elle était née un 21 juin, comme Jean-Paul Sartre. Et je pense que L'Or Chamade, bon, c'est un roman qui est très personnel, mais qui quand même fait référence à ce livre de François Sagan et à ce film d'Alain Cavalier avec Catherine Deneuve. Est-ce que vous êtes... C'est plutôt vos parents qui étaient de la génération Sagan, j'imagine.
Oui.
Mais pourquoi cette fascination un petit peu pour l'univers de François Sagan ?
Alors tout part du film en fait, de façon assez étrange, avant le roman de Sagan. Donc ce roman, La Chamade, a été adapté par Alain Cavalier,
oui,
qui en a fait un film en 1968, la date a son importance. Et donc ce film avec Michel Piccoli, Catherine Deneuve, Roger Van Hool, et Irène Tunk, qui était la femme à l'époque d'Alain Cavalier. Ce film adapte très fidèlement le roman de Sagan. Et j'ai vu ce film la première fois, je devais avoir 12 ans, 13 ans peut-être. Donc pour me situer, je suis né en 71, donc au début des années 80. Et je ne saurais dire pourquoi, en tout cas je l'ai compris plus tard, mais ce film m'a immédiatement fasciné. Alors pour plein de raisons. D'abord, c'est un monde, hein, c'est une élégance, tout le monde est en Saint-Laurent, enfin, c'était un monde que je viens pas de ce milieu-là, donc c'est un monde qui m'a un peu intrigué. Et puis ensuite, il y avait une façon de parler, des répliques qui m'ont beaucoup marqué. Et après, je l'ai revu, j'y ai souvent pensé, et je l'ai revu plus tard, alors là, plutôt vers 16-17 ans. Et j'ai été complètement fasciné cette fois par le personnage de Michel Piccoli, donc qui est le mari, parce qu'on est dans un triangle amoureux. En gros, c'est pas le mari, hein, c'est disons le légitime, on va dire. Puisque qu'est-ce que c'est que la chamade ? C'est un triangle, c'est une jeune femme très belle, assez insouciante, qui recherche avant tout le bonheur, un personnage extrêmement saganien, et qui est joué par Catherine Deneuve. Elle vit avec un homme très riche, qui l'entretient, qui lui garantit une vie très agréable, qui est joué par Piccoli. Et puis un jour, elle croise la route d'un jeune homme qui a beaucoup moins d'argent, et qui est joué par Roger Van Hool, et qui elle va tomber amoureuse de lui, et va partir avec lui. Mais tout ce que je viens de dire est finalement un point de départ, parce que ce qui est intéressant dans le livre et le film, c'est de voir comment cette femme va réagir face à cette opportunité de bonheur, et est-ce que c'est vraiment un bonheur ? Est-ce qu'on doit suivre ses passions ? Enfin, ça pose ces grandes questions-là. Jusqu'où la passion peut-elle être durable ? Qu'est-ce que le sentiment de sécurité ? Doit-on tout jouer sur un coup de dé ? Enfin, c'est ce que pose un peu comme question la chamade. Et ce qui m'a fasciné, c'était le personnage de Piccoli dans cette deuxième vision du film. Parce que Michel Piccoli, au fond, ne se bat pas pour garder Catherine Deneuve, et lui dit même au contraire allez-y, parce que il ne vous aime pas de la bonne façon. Oui. Moi je vous aime comme vous devez être aimé, donc allez-y, vous reviendrez. C'est ce qui se passe d'ailleurs, elle va revenir. Et enfin, je l'ai vue une troisième fois légèrement plus tard, vers 22-23 ans, et j'ai compris quelle était la trouvaille géniale de Sagan. C'était le personnage de Lucie, qui est joué par donc Deneuve, et c'est un personnage fantastique parce que elle ne va jamais se mentir. Elle va comprendre que la passion n'est pas forcément ce qu'elle recherche. Elle va presque accepter une forme de médiocrité chez elle. Et c'est un personnage complètement fascinant qui est épris de liberté, et tellement épris de liberté qu'elle serait capable d'y renoncer.
Alors bon, c'est vrai, la chamade, c'est aussi un roulement de tambour. Enfin, dans l'étymologie de la chamade, si on peut dire, c'est le roulement de tambour pour signifier une défaite. C'est-à-dire qu'on... Voilà, il y a une trêve, enfin,
oui.
Je dirais pas qu'on baisse les bras, mais enfin, il y a...